France Musique. Les grands entretiens, Philippe Cassard.
Je m'appelle Raphaël Pidou. Je suis né le 9 août 1967 à La Garenne-Colombes. Je suis violoncelliste. Je fais partie du trio Wanderer.
Première fois dans les grands entretiens, nous recevons un ensemble constitué avec le trio Wanderer. Nous avons d'abord interrogé chacun de ses membres. Commençons avec le violoncelliste du trio, Raphaël Pidou. Raphaël Pidou, est-ce que naître et grandir dans une famille de musiciens, c'est épanouissant ou au contraire, cela conduit à l'introversion ?
Je pense que c'est très épanouissant et je ne pense pas avoir souffert que mes parents soient musiciens. Au contraire, j'ai baigné dans la musique tout le temps, en fait. Et j'ai même appris le violoncelle grâce à mon père, en fait. Je suis allé sonner à sa porte pour qu'il m'apprenne le violoncelle à 11 ans, je me souviens encore. Et c'était merveilleux.
Vous aviez joué d'un autre instrument avant ?
J'avais fait un peu de violon comme maman et puis surtout du piano. Ma professeure de piano, Jacqueline Dussol, qui était remarquable, était très déçue que je me mette au violoncelle. Elle m'a dit « n'abandonne jamais le piano » et elle avait raison, parce que c'est malheureusement ce que j'ai fait et ça me manque beaucoup de plus savoir jouer de piano.
Et le violoncelle s'est imposé à vous, en vérité, par votre père.
En fait, je pense que j'avais besoin de retrouver mon père et voilà, c'était des leçons hebdomadaires et ça me permettait de le voir régulièrement aussi. Et puis voilà, c'était mon désir.
Il était sympa comme prof ? Ah, exigeant.
Il était exigeant, je crois. Évidemment, c'était son fils, mais il possédait cette autorité naturelle qu'il avait. Donc, je faisais attention. Hein. J'écoutais ce qu'il me disait et je travaillais 3 heures par jour. Je ne quittais jamais mon violoncelle. Et en fait, j'ai aimé le violoncelle par ce qu'il représente physiquement, c'est-à-dire sa boîte. Et pour moi, le violoncelle, c'était les voyages, c'était la puissance, c'était comme papa.
Et lorsque vous avez été admis au CNSM, au Conservatoire de Paris, donc chez Philippe Müller, est-ce que vous aviez déjà une petite idée, peut-être par vos discussions avec votre père, hein, mais de votre avenir de musicien ?
En fait, j'ai jamais pensé à ça. Et quand vous parliez tout à l'heure d'introversion, je pense que je suis resté longtemps introverti, en fait. Ce qui fait qu'avec Philippe Müller, c'était compliqué, parce que lui étant aussi introverti...
Un modèle d'exubérance.
Voilà. Par ailleurs, j'ai eu un autre professeur l'année d'après mon entrée au conservatoire, c'était Christophe Coin, donc là aussi assez introverti. Et au fond, ça m'a appris beaucoup de choses, l'humilité, et puis la simplicité dans l'art, et en même temps l'exigence. Et je dois dire que j'ai mis du temps à être à l'aise devant un micro, avec mon instrument aussi sur scène, et aller voir les gens, les organisateurs, comprendre un peu le monde, qu'est-ce que c'était qu'un impresario, etc. Je ne savais pas tout ça au conservatoire.
Vous aviez quel âge à peu près dans ces années de conservatoire?
Je suis rentré à 17 ans, ce qu'on peut considérer comme très jeune maintenant, mais pour moi ça avait l'air normal, et puis j'en suis sorti à 20 ans. Et puis là j'ai rencontré le grand maître Janos Starker, et je suis parti aux États-Unis pendant un an.
Thank you. Starker, c'est quand même une espèce de figure mythique dans le milieu violoncellistique.
Exactement. Et je me souviens encore de la panique quand j'annonce à mon père que j'ai rencontré le Starker au spécial de la Rock d'Anthéron et qu'il m'attend à Bloomington, il a une place pour moi. Et mon père me dit, mais Raphaël, tu peux pas aller travailler avec Starker. Mon père était élève de André Navarra. Et Navarra et Starker ne s'entendaient pas du tout. C'était une typologie
le noir
complètement,
et blanc.
Complètement, voilà, beaucoup de polarité. Et puis, je me souviens vraiment, il était terrorisé parce que on disait beaucoup de mal de Starker en France, alors que.
Et pourquoi Starker, on en disait du mal?
Parce que cette espèce de froideur, cette espèce de diktat hongrois, je ne sais pas, peut-être assez prétentieux comme bonhomme, alors qu'en fait il ne l'était pas, c'était tout l'inverse. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'au cours d'une tournée avec le trio Pasquier aux États-Unis, mon père est venu 2 jours à Bloomington écouter les cours de Janos. Et là, il m'a dit, en fait, j'avais une mauvaise appréciation de lui. Et il m'a dit, j'ai découvert Starker. Et encore maintenant, il me dit, mais c'est lui qui t'a donné tous ces conseils techniques. C'est incroyable.
Comment vous le définiriez, cet enseignement de Starker, par rapport à vous, en tout cas?
Moi, en fait, il fallait vraiment que je trouve quelqu'un qui m'ouvre les dernières choses à savoir quand on est artiste et qu'on doit être sur scène avec tous ses moyens. Donc, par exemple, je ne savais pas respirer. On m'avait jamais parlé de respiration. C'est pas une critique, hein. C'est parce que, voilà, dans l'enseignement, peut-être qu'on reçoit quelquefois, voilà. Et c'est vrai que pour un violoncelliste ou un pianiste, je sais pas, il y a peut-être pas besoin de respirer par rapport à un chanteur, mais n'empêche que c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, j'étais très crispé, je faisais des grimaces en jouant, j'étais moi-même paniqué. Quelquefois, j'avais l'impression de m'évanouir sur scène à 20 ans.
Et en fait. Faute de ne pas respirer.
Exactement. De ne pas savoir respirer, même. Starker m'a tout de suite dit, tu poses l'archer sur la corde et tu expires. Ah bon? Et la levée, tu inspires. Ah bon?
Une connaissance du corps, en tout cas.
Exactement. Il détestait qu'on l'appelle docteur, mais n'empêche que ça a été mon premier ostéo, quoi, du violoncelle. Et j'ai eu peut-être une trentaine de cours avec Starker. Je m'en souviens encore.
Il jouait devant vous ?
Beaucoup.
Beaucoup.
Et ça, c'était toujours impressionnant, j'adore.
Raphaël Pidou, vous dites 1989, Bloomington, ce qui signifie, à contrario, que le trio Van der Hoorn, dont on sait qu'il a été créé en 1987, donc existe depuis 2 ans. Alors vous allez nous raconter comment vous avez cheminé jusqu'à ce trio Van der Hoorn. Je crois savoir d'abord que vous avez rencontré Guillaume Sutre. Vincent Koch, le pianiste, n'est arrivé qu'après.
Alors en fait non, parce que un jour Philippe Muller me dit, tu vas jouer à Saint de Debussy, et tiens, j'ai entendu un jeune là, il s'appelle Vincent Koch, tu vas jouer avec lui. Et donc j'ai très vite fait de la sonate avec Vincent.
Ah, c'est plutôt avec Vincent. Alors,
on a fait plusieurs concerts, voilà. Et puis je pense qu'avec Guillaume, on faisait des duos, on faisait Ravel, on faisait les duos de Coda, etc.
Mais donc vous connaissiez, c'était
oui,
un petit
on se connaissait. Et en fait, en avril 87, mon père, étant professeur à l'Académie de Villecroze, me dit, tiens, tu peux pas faire un trio? Je dis, ouais, on va venir en trio. Tiens, je vais demander à Sutre et Koch. Enfin, si, ça s'est passé un peu comme ça, je crois. Et nos premiers balbutiements, c'est l'Académie de Villecroze en avril 87.
Et alors les atomes crochus, est-ce qu'on les sent rapidement? Comment vous me parliez de votre duo avec Vincent, ensuite de vos expériences musicales avec Guillaume Sutre. Alors, comment ces trois-là se sont entendus au début? Est-ce qu'on y réfléchit ou pas du tout?
Non, tout s'est fait naturellement. On était des bons copains, en fait. C'était toute une époque, on se faisait des cachotteries. Dans l'avion, on se jetait des bombes à eau.
Dans l'avion
Oui, à l'hôtel, on se mettait du dentifrice sous les poignets. Enfin voilà, on était des gamins, quoi.
potache.
Et Vincent faisait la cuisine, comme toujours, à Bloomington, il faisait la cuisine pour tous les étudiants. Voilà, non, c'était des vacances, c'était la colo, quoi, c'était les copains, quoi. Voilà, on en a bien profité.
Mais il y avait du travail quand même là-dessous.
Il y avait des batailles d'oreillers le soir. Ah bah oui, il y avait beaucoup de travail en fait, parce que il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on avait tous envie de faire la même chose. Et c'est vrai que ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que c'est quand même du travail. La rencontre ne suffit pas. Et je me souviens, on faisait des partiels. Moi, je faisais des partiels avec Guillaume pour le travail du son, les vitesses d'archet, les emplacements de l'archet, la qualité du vibrato, le même vibrato, l'homogénéité. Et très vite, on nous a félicité sur ce travail-là. Et puis après, il y a le travail avec Vincent. Donc, Vincent, en fait, il demandait que ça.
France Musique, les grands entretiens du trio Wanderer.
L'année où on a constitué le trio, j'avais gagné un prix à Leipzig, juste avant la chute du mur. Marc a eu le premier prix, moi j'ai eu le troisième, et on a des souvenirs fabuleux. C'était juste avant la chute du mur, 88. Mais c'était pas ma passion, je me sentais pas si bien, quoi. Et faire de la musique avec les collègues, avec des amis, ça, je me sentais bien. Je me sentais en sécurité, en fait.
Est-ce que ce plaisir-là, vous l'avez gardé jusqu'à aujourd'hui, par exemple?
Complètement. Et puis, quand Jean-Marc est arrivé dans le trio, c'était pareil. Il y a la fameuse séance d'essai, je m'en rappelle encore, où on avait donc fait les choses bien avec Vincent, qui est toujours très organisé, très loyal. On avait reçu pas mal de demandes de violonistes et on leur accordait un temps pour jouer avec nous, répéter avec nous et voir si ça allait coller.
Ce temps-là, c'était quoi, une semaine, un mois? 4 jours?
Certains avaient demandé, oui, trop de temps, et on l'a réduit, en fait. Parce qu'au moment où votre futur collègue s'accorde, c'est-à-dire prend le là, s'accorde avec vous, vous savez déjà si c'est possible ou pas de jouer avec nous.
Vraiment?
Oui.
Et pourquoi?
Parce que
ça se sent comment?
Je sais pas comment expliquer. Comment vous dire, c'est comme quand vous voyez une pâtisserie dans une vitrine, vous en avez envie ou pas, quoi. Enfin, et ça a été ça avec Jean-Marc, c'était fulgurant même.
Et Dieu sait s'il est différent de vous deux.
Ah ben complètement, mais il nous amenait. Alors justement, il nous amenait cette espèce de côté conquérant, c'est-à-dire bon, attention les gars. Formation constituée, oui, mais pas formation constipée. on est 3 solistes, hein, aussi. On sait jouer à 3, mais on sait jouer aussi individuellement. Allez, réveillez-vous, là, on y va.
Mais il y avait une torpeur qui s'était installée avant, dans les années précédentes?
Je ne sais pas, non, mais on était jeunes, et puis...
Par exemple, Guillaume Sutre, avec le recul, là, oui. Aujourd'hui, vous le définiriez comment comme musicien du trio Wanderer?
Oh ben c'était super, très musicien, très. Il y a jamais eu de problème. On se fâchait un petit peu vers la fin, mais parce qu'il y avait du tiraillement, mais c'était rien de méchant en fait. Et puis lui, sans qu'on le sache nous, avait déjà, s'était déjà tourné vers le quatuor à cordes, etc., etc. Donc.
Vous avez réagi comment? Vous êtes un colérique?
Non, j'étais.
Assommé par la nouvelle?
Non, j'étais atterré, je tremblais. Il y a eu ce moment un petit peu. Un chaos en fait, hein, qu'on a très bien géré avec Vincent et on a tout de suite rebondi. Je dois dire grâce au conseil à l'époque de Michel Glotz, qui était notre impresario avec Thérèse Darras et qui nous a tout de suite dit avec sa voix mythique « Les cocos, on n'a pas fait tout ce travail pour en arrêter là, alors vous allez vous trouver un nouveau violoniste et vous allez vous dépêcher. »
Ah oui. Philippe, c'est arrivé combien de temps à peu près?
En quelques mois, Oui, en 2-3 mois, on a...
Vous vous souvenez de la première note de musique que vous avez jouée avec lui?
Oui, c'était le Mendelssohn. Il nous dit, bon, je vous préviens, j'ai pas le temps de regarder les notes. Hein. Je lui dis, c'est pas grave, t'inquiète pas. Comme je vous dis, voilà, il s'est accordé, on a fait quelques lignes et j'ai regardé Vincent discrètement d'un coin de l'œil.
Vous vous connaissiez avant?
Oui, on se connaissait, on avait joué ensemble en plus. J'avais fait un Messiaen avec lui au conservatoire, on était des collègues en fait. Hein. Et Jean-Marc est arrivé en trio au mois de mars, je crois, ou quelque chose comme ça. Et on lui dit, écoute, ça va être toi, mais il va falloir que tu te libères tout de suite, parce qu'il y a ça. Et je vois encore les yeux de Jean-Marc, complètement paniqué.
Parce que c'était à l'époque que vous jouiez quoi, 70 fois par an, 80 fois par an,
C'est ça, non, c'est ça.
Des grosses saisons.
Mais je dois dire qu'il s'en est très bien sorti, tout le monde, voilà, et puis on est heureux.
Vous parliez du style, enfin du côté conquérant, impérieux, du caractère, de la personnalité de Jean-Marc Philips. J'imagine aussi qu'il a dû vous inciter à travailler des œuvres nouvelles que vous n'aviez pas forcément envie ou auxquelles vous n'aviez pas forcément songé.
C'est-à-dire que quand Jean-Marc est arrivé dans le trio, il y avait une autre dimension, la dimension solistique, la dimension de la projection, la dimension du gros son, du beau vibrato, même du vibrato permanent à l'école juive américaine, etc. Et c'est vrai que moi, je faisais déjà beaucoup de baroque aussi. J'étais dans le côté un peu écologique, quoi. Et là, Jean-Marc arrive et on y va. Hein. Ah bon, d'accord. Alors, Smetana, Tchaïkovski et tout ça, magnifique. Mais alors, de temps en temps, je lui demandais d'en enlever. Puis de temps en temps, il me disait d'en rajouter un petit coup. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
Est-ce que vous êtes bienveillant l'un envers l'autre absolument intransigeant?
Non, je pense qu'on est. Il y a de la bienveillance, évidemment. On m'a demandé ce que je pensais de mes collègues et j'ai dit que je les aimais. Ça m'est sorti comme ça. Et en fait, c'est vrai, mais on se le dit jamais. Je trouve notre relation assez saine. Alors, on a une manière de se parler qui est assez
franche,
assez étrange.
Assez virile.
Oui, c'est ça. Et on fait pas de quartier, mais bon.
Oui, mais c'est comme ça qu'on progresse quand même.
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a pas de règle en fait. Hein, mais
vous vous estimez en tout cas l'un l'autre. Ça,
oui, je pense. Oui.
C'est ce qui s'entend sur scène quand
pas.
On. Quand
Sinon, on
oui.
pourrait pas. Enfin, moi, je ne pourrais pas faire semblant. Ça, c'est sûr.
Vous avez joué assez rapidement tous les trios de Beethoven. Vous vous souvenez des premiers temps où vous jouiez l'Archiduc ou les Esprits et de maintenant, la manière dont vous jouez, quelle évolution vous voyez?
C'est considérable. Je me souviens de l'intégrale Beethoven qu'on avait fait à l'Air Colossal à Munich, par exemple, où on était complètement stressé. Et dès qu'il y avait dès qu'il y avait une fausse note, j'avais l'impression que ma carrière était finie. Enfin bon, c'est des trucs ridicules, quoi. Moi, j'aime la perfection, mais il y a un moment donné, il faut pouvoir lâcher aussi, parce que qu'est-ce que c'est qu'une fausse note?
Ben là, vous êtes assez d'accord avec Jean-Marc Philippe sur ce point-là, parce que lui, il aime la prise de risque. Enfin, il aime se lancer.
Exactement. Mais moi, j'étais très contrôlant à l'époque, parce que j'avais peur en fait de mal faire, voilà, et puis qu'on m'aime pas, j'avais peur qu'on m'aime pas.
Quatre membres du Quatuor Amadeus, vous les avez donc côtoyés chacun. Comment vous en parleriez aujourd'hui de Breining, de Nissel, de Schidlof et de Martin Levet?
Ça me paraît tellement loin, ça me paraît tellement une autre planète que celle qu'on vit maintenant.
Alors, définissez-la cette autre planète.
Le respect du texte, le respect du compositeur, le respect du style. Je me souviens encore Breining qui était complètement triste d'entendre de la musique mal interprétée, enfin qui était disons pas à son goût en tout cas. Il voulait créer une fondation du goût à Londres. Il voulait créer une école pour le goût musical. Je lui dis, vous êtes sûr? Parce que Wagner a essayé de faire ça à Munich, mais ça n'a pas marché non plus. Hein. Et Breining, il avait ce côté tellement enfantin, naïf et complètement comment dirais-je? il était parti dans son monde intérieur. Quand on faisait un cours avec lui, on ne savait pas quand ça finissait. Et on ne savait pas si on allait passer une heure et demie sur deux lignes, ou s'il allait prendre son violon, jouer avec nous 10 minutes et oublier qu'il était en cours.
On est porté par des voix de ce.
On s'en souvient encore.
De cette dimension.
On s'en souvient encore. Oui. Quand de temps en temps il nous dit parlando là, faites-moi vibrer ça. Il faut qu'on sente le texte. Il faut qu'on sente quelque chose. Mais il a raison. Quand on est jeune, on comprend rien. En tout cas, moi, je comprenais rien de ce qu'il voulait dire. Alors, j'essayais de mieux faire, de jouer encore plus juste, de m'appliquer avec la sonorité, de faire attention à mon vibrato. C'était pas ça.
Raphaël Pilou, je voudrais revenir au concours de Munich, parce que c'était pas banal à l'époque, donc à la fin des années 80, qu'un ensemble français soit le premier nommé l'année où vous avez été au concours, au prestigieux concours ARD de Munich. Vous vous souvenez de cet état d'esprit qu'il y avait des membres du jury, des retours que vous avez pu avoir?
Bah oui, déjà on était fous hein, de se présenter après un an de trio. On avait un an et deux mois de trio, ou trois mois de trio, bon, mais on s'est extrêmement bien préparé. On se souvient, oui, de cette espèce de côté très serré, très tendu des concours internationaux. Je me souviens plus très bien des autres candidats. On était déjà assez blindés, hein, et on se soutenait les uns et les autres, hein, parce qu'on était bourrés de trac, hein, forcément, comme tout le monde. Mais on avait bien travaillé, ça je me souviens. Je me souviens du trio de Ravel, finalement. Il y avait déjà des personnes qui nous avaient repérés en demi-finale.
Et qui vous ont offert des concerts?
Oui. Berlin notamment, etc. Voilà. Et de quoi je me souviens d'autre? Gutmann, Natalia Gutmann, qui était dans le jury, qui nous avait beaucoup apprécié, qui nous avait dit beaucoup de compliments. Voilà. Après, c'est pas des moments très agréables les concours, hein, en fait.
Est-ce que ça a lancé votre carrière, on va dire, plus internationale qu'allemande spécifiquement?
Oh, je pense que il y a toujours des retombées. De là à dire que c'est uniquement les concours internationaux qui lancent une carrière, je ne crois pas. Disons que c'était un très beau challenge. Et si on est arrivé les premiers, comme vous dites, tant mieux. Mais je pense que le travail derrière, il est colossal à fournir. Hein. Déjà, il faut être prêt pour les premiers concerts. Et je dis souvent, vous savez, par exemple, Jeanine Rose, elle a mis 12 ans ou 15 ans à nous inviter. Hein, je veux dire, donc les carrières sont longues. Moi, je dis à mes élèves, mais arrêtez d'être pressés. Ah oui, mais il y a des impresarios qui disent qu'à 22 ans, on est déjà trop vieux pour faire une carrière. Mais je leur dis, mais ne les écoutez pas. La carrière à l'ancienne, ça commençait à 35 ans. On faisait avant les orchestres de bal, les orchestres de cinéma sur les grands boulevards. Et puis à 35 ans, comme Pierre Fournier ou comme d'autres, je ne sais pas.
Tortelier, vous le citiez tout à l'heure.
On faisait la carrière, exactement. Et Starker, c'est pareil, il a fait pareil. Et je me souviens, Starker détestait qu'on lui dise que c'était un enfant prodige. Parce qu'il dit, c'est un enfant prodige, c'est le monde à l'envers. C'est une fois que la mécanique marche plus, à 30 ans, qu'est-ce que vous faites? Et nous, ce sont des métiers longs, il faut en profiter. On n'est pas comme des sportifs ou des danseurs qui devront changer de métier à 40 ans.
C'était le Pantoum du trio en la mineur de Maurice Ravel, interprété par le trio Wanderer, que nous retrouverons demain pour un deuxième épisode des Grands Entretiens, avec cette fois Vincent Koch, le pianiste, à la prise de son Pierre Monteil, mixage Cédric Chatelus, attaché d'émission Marie-Christine Ferdinand, et à la réalisation Lionel Quentin. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.